tous. Ça fait plaisir de revoir plein de visages, certains que je n'ai pas vu depuis longtemps, d'autres des nouveaux, d'autres qui ont été fidèles tout l'été. Voilà. Alors pour commencer, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai travaillé pour préparer ce message, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de choisir un tel sujet? Pourtant, c'était le fruit d'une conviction, j'avais eu un flash. Il faut qu'on en parle. Mais de quoi? Du féminisme. Plutôt du féminisme à la lumière de la Bible. Alors, c'est un sujet difficile, en tout cas inconfortable. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de texte de la Bible qui en parle directement. Je pense que la notion de féminisme n'existait même pas à l'époque. C'est dur aussi d'être objectif sur un tel sujet, alors qu'on est influencé par notre société, notre mentalité d'aujourd'hui, qui est très différente des temps bibliques. Le risque, c'est de vouloir lire les textes avec les lunettes culturelles d'aujourd'hui, ou de plaquer les idées dans l'autre sens aussi. C'est un sujet, en plus, on aura peut-être du mal à mettre tout le monde d'accord. Et en plus, pour moi, c'est un sujet un peu difficile aussi dans le sens, je ne suis pas du tout un spécialiste. Alors, j'aurais bien voulu avoir une machine qui permette de lire dans vos pensées et de voir quelle est la première image qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot féminisme. Et j'ai entendu récemment qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ce type de machine et que ça commence à exister. On n'en est pas là. Alors, à quoi ça vous fait penser? Alors, peut-être que certains, ça vous fait penser aux suffragettes, ces femmes qui, il y a un peu plus d'un siècle, s'étaient battues par le droit de vote. Ou peut-être que vous avez l'image d'une femme teigneuse qui veut vraiment se battre contre une société machiste. Ou alors vous avez peut-être une image plus récente de mouvements assez virulents comme les femmes. Alors, tout simplement, le féminisme, ça évoque pour vous l'évidence d'un progrès social dans notre société. On peut aussi penser aux luttes entre les lobbies pour ou contre l'avortement, etc. Il y a peut-être beaucoup de choses différentes qui peuvent venir à votre esprit quand on dit le mot féminisme. Alors, ce qui m'a attiré dans ce sujet, c'était que, au-delà de la première idée qu'on peut avoir du féminisme, dans un sens ou dans l'autre, quand on y réfléchit, je me suis rendu compte qu'on peut être tiraillé entre deux impressions contradictoires. La première, c'est de se réjouir de l'amélioration de la condition des femmes, de se réjouir de ce combat qui est en avant. Et l'autre réaction qu'on peut avoir, c'est peut-être une certaine allergie par rapport à certains discours plus violents et aux conclusions parfois extrêmes auxquelles on a du mal à adhérer. Alors peut-être qu'à ce stade, ce serait bon d'avoir une petite définition. Alors je vais demander son aide au petit Robert, qui dit tout simplement « Féminisme, attitude de ceux qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. » C'est l'avantage d'être simple. Alors, quel est mon objectif ce matin? Vous aurez compris que ce n'est pas celui de faire une conférence savante sur le sujet, ou pas de jouer aux apprentis sociologues. Mais c'est plus simplement de nous rappeler quelques clés bibliques pour nous guider dans nos réflexions. Je ne vais pas vous livrer une réflexion toute faite et dire c'est comme ça qu'il faut penser, mais je veux que vous continuiez à réfléchir sur le sujet et que vous vous référiez à la Bible dans ces réflexions-là. Et au-delà de la question du féminisme, j'aimerais nous faire réfléchir de manière plus globale sur la manière dont nous pouvons gérer les conflits d'idées entre les idées qui sont répandues dans notre société et les textes bibliques et la compréhension qu'on peut en avoir. Alors, j'ai deux grandes parties. La première, celle de se poser la question, mais est-ce que le féminisme, en quelque sorte, ce ne serait pas une cause biblique? Et la deuxième, c'est de nous dire, hommes et femmes, sont égaux, mais différents et complémentaires. Alors, le premier constat, le premier aspect qui ressort de cette question du féminisme, c'est la lutte contre les injustices faites aux femmes. Et je vais citer le théologien Bill Johnstatt qui écrivait ceci. Dans beaucoup de cultures, les femmes ont été habituellement méprisées et dégradées par les hommes. Elles ont souvent été traitées comme des jouets ou des objets sexuels, des esclaves et des bonnes d'enfants, ou comme des idiotes, incapables de participer à une discussion rationnelle. dissociée, la personnalité niée, leur liberté restreinte et leurs services exploités dans certains domaines et refusés dans d'autres. Face à un tel constat, la réaction du chrétien ne doit faire aucun doute. Non seulement nous ne pouvons pas adopter de tels comportements méprisants entre les femmes, mais nous devons plutôt lutter contre de telles injustices. Les chrétiens devraient être des champions dans ce type de cause, être en première ligne pour défendre les droits des femmes. Tout au long de la Bible, on voit que Dieu se préoccupe de la justice sociale. Moi, ce qui m'a frappé, dans plusieurs textes où le peuple d'Israël essaie de se rabibocher avec Dieu pour se rattraper un peu de ses mauvaises actions, il va mettre en avant des pratiques religieuses pour regagner la faveur de Dieu. Et Dieu leur dit, non, moi ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux en premier, c'est que vous pratiquiez la justice. Dieu s'intéresse à la justice sociale. Alors, on va revenir, recentrer de nouveau sur la simple question de l'égalité entre l'homme et les femmes, la justice à ce niveau-là. Et on va voir ce qu'en dit la Bible. Et on va regarder le récit de la création tout au début de la Genèse. Chapitre 1. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa, hommes et femmes. Puis, il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dans ce premier récit de la création, on apprend que les humains sont créés hommes et femmes. Ensemble, hommes et femmes, ils sont à l'image de Dieu, donc ils ont la même dignité devant Dieu. Et qu'ensemble, Dieu leur donne un mandat qui consiste à avoir des enfants pour se multiplier et peupler la terre, et à dominer le reste de la création. Alors on va aller dans le deuxième récit, la création qui est au chapitre 2 de la Genèse, et qui donne un autre éclairage. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit à son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi un homme se sépara de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Cette fois-ci, on a une distinction entre l'homme et la femme. L'homme est présent d'abord dans ce récit, et ensuite, Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui manque une aide qui soit son vis-à-vis. Et c'est là que Dieu intervient pour créer la femme. Quoi ? La femme serait donc une aide créée pour l'homme ? J'en vois beaucoup s'indigner face à une telle idée. Ça encouragerait les gens qui veulent croire que la femme est faite pour l'homme et sa boniche à son service. Et attendez un peu avant de réagir. On va regarder ce que veut dire ce texte. Il n'y a pas de lien de subordination derrière ce mot « aide » tel qu'il est utilisé dans ce passage. Et en fait, le mot hébreu qui est traduit par « aide » ici est souvent utilisé dans l'Ancien Testament. Alors, je l'ai noté 15 fois sur 21, je ne vais pas le vérifier, je fais confiance aux commentaires. Mais pour désigner Dieu, Dieu qui vient aider l'homme, qui vient à son secours. Quand on pense à ça, on ne peut pas en déduire que c'est un lien de subordination, parce que jamais Dieu ne pourrait être considéré comme notre subalterne. passage. Si on réagit sur le mot « aide », si la femme est une aide de l'homme, elle ne peut pas être une concurrente ou une rivale avec laquelle il faudrait lutter pour montrer ce qui est le plus fort. Non, l'homme et la femme sont faits pour faire une équipe. Mais plus que ça, le projet de Dieu, c'est qu'ils soient un, une seule chair. Oui, mais alors, le fait que Dieu ait créé d'abord l'homme et puis ensuite la femme, est-ce que ça ne voudrait pas quand même dire que l'homme était plus important et que la femme, c'était pour l'aider après? Si on développe cette logique-là, que le premier arrivé est le plus important, quand on regarde le reste du récit de la création, il faudra en déduire que tout le reste de la création est plus important que l'homme et la femme, puisque l'homme et la femme arrivent en dernier. Or, c'est clairement le contraire de ce que dit Dieu. Donc, on ne peut pas aller dans cette logique-là. Alors, regardez la réaction de l'homme quand il voit la femme. Il dit, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ça révèle que l'homme et la femme sont de la même nature. Ce n'était pas le cas avec les animaux. Mais l'homme et la femme sont de la même nature. Il y a égalité à ce niveau-là. Et est-ce que vous avez remarqué quelle est la partie du corps de l'homme qui a été utilisée par Dieu pour créer la femme? Une côte. Enfin, peut-être que vous connaissez déjà cette image. Je cite Pierre Lombard, qui était archevêque de Paris au XIIe siècle, et qui dit ceci. Elle fut prise non des pieds d'Adam pour être son esclave, ni de sa tête pour être son seigneur, mais de son côté pour être sa partenaire. La femme est donc le vis-à-vis de l'homme. Elle est au même niveau. Alors, jusqu'à présent, la lecture de tous ces textes nous fait plutôt pencher dans le sens de l'égalité entre l'homme et la femme. Une égalité en nature, une égalité en valeur, même une égalité en mandat. Mais il y a bien un moment où cette égalité a été mise à mal. Après qu'Adam et Ève aient désobéi à l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont sanctionnés. Et d'abord, la sanction qui s'adresse à tous les deux d'être chassés du jardin d'Éden. Et ensuite, il y a des sanctions spécifiques, je vais dire celles qui concernent la femme et l'homme. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » La domination de la femme par l'homme ici est présentée comme une sanction à la désobéissance. C'est la conséquence du péché au rejet du plan de Dieu. Noter que ça ne faisait pas partie du projet initial de Dieu dans la création. Alors attention quand même à ce qu'on va vouloir faire dire à ce texte. On les voit venir, ces gars qui disent « Bon ben, c'est de sa faute à la femme, donc il faut qu'on domine sur elle et qu'on l'écrase. Dieu l'a dit, c'est écrit dans la Bible. » Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont raisonné comme ça. Il fallait vraiment comprendre le texte comme ça, et si on voulait être cohérent, il faudrait aussi dire qu'il faudrait rendre aussi ces grossesses et les accouchements plus douloureux, donc pas de péridurale, quoi que ce soit, mais aussi pour l'homme. Il faudrait rendre le travail de la terre plus difficile, la machine agricole, et puis tant qu'on y est, on devrait faire pousser plus de chardons et d'épines, parce que vraiment, il le mérite. J'ai jamais entendu des gens pousser ce genre de thèse, donc ça montre tout de suite la validité de la réaction que j'ai dénoncée tout à l'heure. Attention à ne pas vouloir faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Soyons honnêtes dans notre interprétation. Mais alors, si la domination de l'homme sur la femme est une conséquence du péché, quelle va être la solution? Est-ce qu'il faut rejeter Dieu? Il y a beaucoup de féministes, entre autres, qui en arrivent à cette conclusion-là, qui vont rejeter Dieu, ou la religion en général. Personnellement, moi j'ai du mal à croire qu'un problème qui serait la conséquence du péché puisse se régler en péchant encore plus, c'est-à-dire en rejetant Dieu, c'est péché, rejeter Dieu. Pour moi, c'est une erreur de stratégie, voire même une erreur de logique. Pour moi, la stratégie qui serait plus logique, c'est celle de s'attaquer à la racine du problème, au péché lui-même. Et c'est la stratégie employée par Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut résumer par l'Évangile. Et quand on lit ce verset de l'Épître aux Galates, « Maintenant, par la foi en Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham, et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Jésus-Christ a réglé le problème du péché, au moins à notre place. Et donc, au passage, il a aussi réglé, le problème de la domination injuste de l'homme sur la femme. En Christ, hommes et femmes sont au même niveau. Nous sommes à nouveau un, sur le même pied d'égalité. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie. Alors, jusqu'ici, on l'a vu, c'est peut-être la partie la plus facile, que les chrétiens doivent se sentir concernés par ce qui concerne le sujet de justice sociale et en particulier de prendre soin des femmes, de lutter contre l'injustice contre les femmes. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une application particulière du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et quand on parle d'égalité, de quel type d'égalité parle-t-on ? Égalité en droit, en dignité, en valeur aux yeux de Dieu ? Ça, oui, clairement, on l'a dit. Mais égalité ne veut pas dire uniformité. Ne veut pas dire qu'il faut nier des différences entre les hommes et les femmes. Alors, quand on pense aux différences entre les femmes et les hommes, on va penser peut-être d'abord aux différences physiologiques, sexuelles, hormonales, physiques, neurologiques peut-être. Mais certains vont relativiser ces différences en disant « Oui, mais tous les êtres humains sont différents sur tant de critères. Pourquoi se focaliser sur cette différence homme-femme ?» La différence sur laquelle j'aimerais qu'on vienne maintenant, et qui est peut-être moins évidente dans notre contexte culturel, c'est une différence de rôle. Préalable à admettre pour comprendre une telle idée, c'est de reconnaître la réalité de la création. C'est reconnaître que nous avons tous été créés, hommes et femmes, on l'a dit, par Dieu et pour Dieu. Pas pour nous-mêmes. Ça implique aussi d'admettre que Dieu avait un plan pour la création. Il n'a pas fait les choses comme ça au hasard. On peut vraiment voir qu'il y a un ordre dans ce que Dieu fait. Alors, quels sont ces rôles ? Les femmes au fourneau et les hommes devant la télé ? Mais non, elle n'avait pas de télé à l'époque. Non, c'est pas ça le problème. Retournons à la Genèse. Il y a plusieurs constats que nous pouvons faire. C'est à l'homme que Dieu donne les instructions de cultiver et garder le jardin. C'est à lui aussi qu'il donne la consigne de ne pas manger du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. L'avertissant du danger qui en découlait. Et on peut deviner que ça a sûrement fait partie de la responsabilité de l'homme de transmettre cette consigne à la femme. On voit donc deux rôles de l'homme, celui d'être intendant et exploitant de la création, et celui d'être garant de l'instruction divine. On peut remarquer que, après la chute, c'est vers l'homme que Dieu vient en premier pour lui demander des comptes, comme s'il portait une responsabilité plus grande. Alors, bien sûr, ça n'enlève rien à la responsabilité de la femme ou du serpent. Et d'ailleurs, ils recevront chacun leur sanction. Bon. Quant à la femme, quel est son rôle ? On l'a lu tout à l'heure. D'être une aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors, je réinsiste sur ce rôle d'aide qui ne veut pas dire qu'elle est inférieure à l'homme. Ce n'est pas sa petite main. C'est comme Dieu qui vient au secours de l'homme. De même, la femme vient au secours de l'homme. Elle vient le compléter. C'est le constat que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même. Il faut les deux, il faut cette complémentarité. C'est particulièrement s'intéresse à la procréation. L'homme et la femme ont un rôle différent, complémentaire, ils ne peuvent pas s'interchanger, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre. Une nécessaire complémentarité entre l'homme et la femme. Alors, on a beaucoup lu le texte au début de la Bible, dans la Genèse. On va maintenant sauter un peu au Nouveau Testament. Et parmi une liste de recommandations que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de l'église d'Éphèse, voici quelques-unes qui concernent spécifiquement les rôles au sein du couple, mari et femme. C'est des consignes qui sont assez claires, mais qui peuvent nous surprendre au premier abord. Ça commence fort, attention. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous faisons tous partie. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Il y a une grande vérité cachée dans ce passage. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église, mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Alors dans ce texte, Paul décrit clairement les responsabilités de la femme vis-à-vis de son mari et du mari vis-à-vis de sa femme. C'est là qu'on peut dire que le mari est chef de sa femme. Aïe, aïe, aïe. C'est scandaleux, ça! Et combien Paul s'est-il déjà pris des foudres du ciel et de tous les féministes de tous bords pour avoir osé écrire des choses pareilles. Certains remettent en cause son autorité ou sa clairvoyance. Beaucoup de chrétiens sont mal à l'aise avec ce genre de texte. D'autres vont balayer le sujet en disant « Oui, mais ça c'était vrai à l'époque, les temps ont changé, ça ne s'applique plus vraiment pour nous aujourd'hui. » On va regarder plutôt au texte et ce qu'il veut vraiment dire. De quel type de soumission est-il question ici? S'agit-il d'une soumission au modèle patriarcal? Et souvent, on accuse Paul d'être le chantre de l'oppression d'un modèle patriarcal qui veut assujettir les femmes sous sa coupe. Mais non. Regardez quelle est la recommandation réciproque qui est adressée à l'homme. Marie, aimez vos femmes! Et pas n'importe quel type d'amour. Tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Ah oui, on est loin du macho tyrannique qui tient sa femme sous sa domination pour son bon plaisir. Le projet de Dieu, c'est la complémentarité entre un amour sans faille du mari et une soumission volontaire et respectueuse de la femme. Si on a juste de la soumission mais sans l'amour bienveillant du mari, c'était pas ça le projet de Dieu. Et inversement, il nous faut absolument regarder les choses dans leur globalité. En tant que mari, ma responsabilité, mon boulot, ça ne va pas être de m'assurer que ma femme reconnaisse que je suis le chef. Je vais d'abord regarder quel est mon problème. C'est d'apprendre à l'aimer comme mon propre corps. Donner ma vie pour elle. Oh non, Seigneur, ça c'est trop compliqué. Chacun a du travail à faire sur ses propres responsabilités. C'est trop facile de regarder à l'autre d'abord. Bon. On est quand même arrivé sur un terrain qui s'est bien éloigné des idées féministes traditionnelles. Dans le féminisme, on va plutôt vouloir délivrer la femme, la sortir de ce carcan, délivrer le tout rôle, tout stéréotype machiste. Et on va vouloir régler le problème passage, on va rejeter Dieu aussi quand on y est. Et en fait, c'est là qu'on touche au fond du problème. Le rejet de toute soumission, ici celle de la femme à son mari, est symptomatique de notre société. Nous avons de plus en plus de mal à accepter la moindre notion d'autorité, et ça se voit dans plein de domaines, que ce soit les parents, l'école, la police, les institutions, les élus. C'est dur de dire, ben, si je veux me soumettre à ces autorités-là, c'est plus du tout la mode. Et ça, mes amis, c'est un symptôme caractéristique d'une maladie grave que la Bible appelle péché. Ce n'est rien d'autre que la remise en question, ne devrais-je pas dire le rejet, de l'autorité de Dieu. Dieu a-t-il bien dit ? Voilà comment le serpent a tenté la femme. Avec succès, malheureusement. Le péché, c'est vouloir être comme Dieu, d'être à la place de Dieu. Et le serpent avait bien dit à la femme, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Mes amis, il faut qu'on soit attentif à ce genre de symptômes qu'on peut voir autour de nous. Appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, c'est caractéristique du péché. Ne nous illusionnons pas sur l'état de notre société. L'humanité entière est corrompue par le péché. Et pourtant, il y a un rejet net et franc de ce diagnostic dans notre monde. On ne veut plus entendre parler de Dieu, de péché ou de religion. Aujourd'hui, Dieu est totalement évincé du système des valeurs qui font notre idéal républicain. Même la chose les meilleures. La liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, la laïcité, la tolérance, la sexualité, etc. Ces bonnes choses sont aussi entachées par le péché qui est sous-jacent à notre manière de penser. Avant de conclure, j'aimerais qu'on s'interroge sur notre échelle de valeur. Quand on lit la Bible et certains textes en particulier, comme peut-être ceux qu'on a lus tout à l'heure, il peut arriver que notre sensibilité soit heurtée. Comment est-ce qu'on gère ces conflits entre ce qu'on comprend de la Bible et les idées répandues dans nos sociétés? Qu'est-ce qui fait autorité dans notre vie? Parce qu'à un moment, il faut bien qu'on se positionne. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui fait autorité? Ou est-ce que ce sont les valeurs promues par notre société? Qu'est-ce qu'on va remettre en question? Alors, on peut remettre en question notre compréhension de la Bible. Parce qu'on peut se tromper. Et parfois, c'est même salutaire de sortir d'une hérésie. On en a mal compris un texte biblique. Mais en tant que chrétien, ce qui est fondamental, c'est qu'avant tout, on soit soumis à l'autorité de Dieu, soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Soyons prêts à remettre en cause même les principes les plus évidents et les plus unanimement reconnus de notre société, en les confrontant à la parole de Dieu. Alors, pour conclure, et pour synthétiser un peu ce que j'ai pu dire depuis tout à l'heure, j'aimerais qu'on garde en tête, je vais parler de clés, deux idées bibliques, deux vérités fondamentales pour avoir des repères dans nos réflexions. La première, c'est que les femmes et les hommes sont égaux devant Dieu, sont la même valeur, sont la même nature, la même dignité. Et donc, nous devons nous ériger contre toute injustice qui serait faite contre les femmes avec de faux prétextes. La deuxième chose, c'est que cette égalité en droit et en valeur n'empêche pas qu'il y ait des différences, et notamment des différences de rôle en particulier dans le couple. Hommes et femmes sont complémentaires. Que ne soyons pas esclaves des injonctions de notre société qui veulent nous faire croire le contraire. Je vais laisser le mot de la fin à ma femme, qui va citer une ancienne militante féministe américaine, Rachel Schultz, et qui a changé sa manière de voir le féminisme après sa conversion. On va écouter ce qu'il dit.
Si je pouvais réécrire le récit du féminisme, je dirais ceci. Nous sommes égaux en valeur et en dignité devant Dieu. Nous devrions, aux côtés des hommes, avoir un esprit de soumission devant notre Dieu. Nous ne pouvons ni nous devrions faire tout ce pour soutenir des actions qui aident les femmes, il faille que j'adhère à l'avortement à la demande ou que je rejette le bien fondé de la soumission, telle qu'elle est bibliquement établie. Les chrétiens devraient être en première ligne dans le combat pour la valorisation et la protection des femmes. Mais nous n'avons pas besoin d'adhérer à tous les idéaux féministes. Pour être une vraie femme, tout ce que vous avez à faire, c'est en fait rien. Car c'est Dieu qui fait que vous êtes une femme ou pas. J'aime être une femme, mais bien avant cela, je suis en Christ.
Je vais prier. Seigneur notre Dieu, ce matin nous voulons reconnaître ton autorité dans nos vies. Être chrétien, c'est être soumis. Seigneur, on veut te confesser qu'il y a peut-être parfois des choses qui nous heurtent, ou alors qui nous mettent mal à l'aise, ou qu'on n'a pas encore bien compris. Et moi-même, il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas encore à l'aise. Et Seigneur, quoi qu'il arrive, je veux me soumettre à ton autorité. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à être des chrétiens responsables, à ne pas tolérer des discours qui méprisent, qui oppressent, profite injustement. Seigneur, fais de nous les champions de la justice, comme toi tu l'es. Seigneur aussi, montre-nous là où nous manquons de respect, nous manquons de soumission à tes voies, à ton ordre. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à assumer nos responsabilités, que ce soit dans la société, dans nos familles, dans nos couples, et que nous puissions rendre gloire par notre manière de vivre. Seigneur, nous partons sûrement tous encore avec des questionnements, des interrogations, avec même encore des révoltes. Et je te prie pour que dans ces réflexions-là,